Dans une série que l'on fait une fois par mois, on parcourt la vie de Joseph. Et cette fois-ci, ce sont les chapitres 42 à 46. Alors je vous rassure, on ne va pas tout lire, mais je vous invite à suivre une sélection des extraits de ces chapitres. Donc à la page 53 dans les Bibles devant vous, page 53, il s'agit du chapitre 42. Ce sera les versets 1 à 11 et ensuite je vous dirai où on ira. Chapitre 42, verset 1, à la page 53. Voyant qu'il y avait du blé en Égypte, Jacob dit à ses fils, « Pourquoi vous regardez-vous les uns les autres ?» Il ajouta, « J'ai appris qu'il y avait du blé en Égypte. Descendez-y pour nous en acheter, afin que nous restions en vie et ne mourions pas. » 10 frères de Joseph descendirent en Égypte pour acheter du blé. Jacob n'envoya pas avec eux Benjamin, le frère de Joseph, car il avait peur qu'il ne lui arrive un malheur. Les fils d'Israël se joignirent à d'autres arrivants pour acheter du blé, car la famine régnait dans le pays de Canaan. Quant à Joseph, il exerçait le pouvoir sur le pays. C'était lui qui vendait du blé à toute la population du pays. Les frères de Joseph vinrent et se prosternèrent devant lui, le visage contre terre. Quand Joseph vit ses frères, il les reconnut, mais il se comporta en étranger vis-à-vis d'eux. Il leur parla durement et leur dit, « D'où venez-vous ? » Ils répondirent, « Du pays de Canaan pour acheter des vivres. » Si Joseph reconnut ses frères, eux ne le reconnurent pas. Joseph se souvint des rêves qu'il avait eus à leur sujet et leur dit, « Vous êtes des espions. C'est pour examiner des points faibles du pays que vous êtes venus. » Ils lui répondirent, « Non, Seigneur, tes serviteurs sont venus pour acheter du blé. Nous sommes tous les fils d'un même homme. Nous sommes sincères. Nous, tes serviteurs, nous ne sommes pas des espions. » Et maintenant, chapitre 43, au verset 1. La famine pesait lourdement sur le pays. Lorsqu'ils eurent fini de manger le blé qu'ils avaient rapporté d'Égypte, Jacob dit à ses fils, « Retournez nous acheter un peu de nourriture. » Judas lui répondit, « Cet homme nous a formellement déclaré, « Vous ne serez pas admis en ma présence à moins que votre frère ne soit avec vous. » Si donc tu veux bien laisser notre frère partir avec nous, nous descendrons t'acheter de la nourriture. En revanche, si tu ne veux pas le laisser partir, nous ne descendrons pas. En effet, cet homme nous a dit, « Vous ne serez pas admis en ma présence, à moins que votre frère ne soit avec vous. » Israël dit alors, « Pourquoi avez-vous mal agi envers moi en révélant à cet homme que vous aviez encore un frère ?» Ils répondirent, « Cet homme nous a interrogés sur nous et sur notre origine en disant, « Votre père est-il encore en vie? Avez-vous un frère ?» Et nous avons répondu à ces questions-là. Pouvions-nous savoir qu'il dirait, « Faites venir votre frère ?» Et maintenant, au chapitre 44, au verset 32. Chapitre 44, verset 32, c'est Judas qui parle. « En effet, moi, ton serviteur, je me suis porté garant pour le garçon devant mon père en disant, « Si je ne te le ramène pas, je serai pour toujours coupable envers mon père. Permets-moi donc de rester à la place du garçon, comme esclave de mon Seigneur, et que le garçon reparte avec ses frères. Comment pourrais-je remonter vers mon père si le garçon n'est pas avec moi ? Non, je ne veux pas voir le malheur frapper mon père. » Et maintenant, au chapitre 45, le verset 1. Joseph ne parvenait plus à se retenir devant tous ceux qui l'entouraient. Il s'écria, « Faites sortir tout le monde !» Si bien qu'il ne resta plus personne avec lui, quand il se fit reconnaître par ses frères. Il se mit à sangloter. Les Égyptiens l'entendirent et la nouvelle parvint à l'entourage du Pharaon. Joseph dit à ses frères, « Je suis Joseph, mon père. Est-il encore en vie ?» Mais ses frères furent incapables de lui répondre, tant ils étaient troublés de se retrouver devant lui. Joseph dit à ses frères, « Approchez-vous de moi. » Et ils s'approchèrent. Il dit, « Je suis Joseph, votre frère, celui que vous avez vendu à destination de l'Égypte. Maintenant, ne vous tourmentez pas et ne soyez pas fâchés contre vous-même de m'avoir vendu pour que je sois conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé ici avant vous. » Et un peu plus loin, verset 27, Ils lui rapportèrent alors toutes les paroles que Joseph leur avait dites. Et lorsqu'il vit les chariots que Joseph avait envoyés pour le transporter, leur père Jacob se ranima. Israël dit, « Cela suffit, mon fils Joseph est encore en vie et je veux aller le voir avant de mourir. » Une reconstitution de crime devrait avoir lieu dans le courant du mois de juin. La reconstitution de quel crime ? Le meurtre d'Alexia Daval, qui a eu lieu le 27 octobre 2017, pendant la nuit, et pour lequel Jonathan, son mari, est accusé. Cette reconstitution aura lieu la nuit, dans la propriété de ce couple. Cette reconstitution, elle a pour but de mettre en évidence des détails qui ne pouvaient être mis en évidence auparavant. C'est aussi le moyen de soumettre le prévenu, l'accusé, à des chocs émotionnels en revivant en quelque sorte ce qui s'est passé cette nuit-là. Et je vous suggère que ce long récit qui va des chapitres 42 à 46 est un peu comme la reconstitution d'un crime. Quel crime ? Un crime qui a eu lieu 20 ans plus tôt. Les frères de Joseph l'ont jeté au fond d'une citerne. Et après l'avoir menacé de mort, ils l'ont finalement vendu en esclavage. Dans cette reconstitution, il ne s'agit pas du même endroit. Les faits avaient eu lieu à Canaan. Ils ont lieu dans la reconstitution en Égypte. Mais il y a un lien. Ils l'ont vendu à des marchands qui se rendaient en Égypte. Cette reconstitution se fera autour d'un autre frère, Benjamin, et non pas Joseph. Mais là encore, il y a un lien. Ce sont les deux seuls fils de la même mère, Rachel, l'épouse de Jacob. À strictement parler, ce n'est pas une reconstitution de crime, puisqu'il n'y aura pas de procès, il n'y aura pas de jugement prononcé. Mais ça y ressemble. Comment comprendre l'épreuve par laquelle Joseph fait passer ses frères ? Comment comprendre ce qu'il fait à ses frères ? Et comment est-ce que ses frères vont réagir à ce qui se passe, au choc émotionnel qu'ils vont subir ? Et pour nous qui assistons à la scène, qu'est-ce qu'on va tirer comme leçon ? Qu'est-ce qu'on va en tirer ? Et je vous suggère le plan suivant. Comment comprendre cette reconstitution de crime ? Ensuite, épargné de la mort. Ensuite, enfin réconcilié. Comment comprendre cette reconstitution de crime ? Ce récit qui va du chapitre 42 à 46 parle d'un déplacement d'une famille de Canaan en Égypte. Et on assiste en fait à trois voyages. Il y aura deux allers-retours qui seront faits par les frères et un voyage final où toute la famille va se rendre en Égypte. Durant les deux premiers voyages, Joseph va en quelque sorte orchestrer une reconstitution de crime avec quatre épreuves. Deux épreuves lors du premier voyage, deux épreuves lors du deuxième voyage. Quatre épreuves qui vont être comme des chocs émotionnels pour ses frères. À quoi ressemble cette reconstitution de crime ? À l'occasion du premier voyage, Joseph les accuse de venir en Égypte, vous l'avez entendu, pour espionner le pays. On se souvient que les frères de Joseph ont menti à plusieurs reprises, et ils ont menti à leur père au sujet de son sort. Et pour éprouver leur sincérité, ils gardent Siméon et leur demandent de revenir avec Benjamin, le dernier de la famille, qui est resté avec son père. La deuxième épreuve, et donc c'est la première épreuve, c'est l'épreuve de l'honnêteté, est-ce qu'ils vont être sincères ? La deuxième épreuve aura lieu sur le chemin du retour. Elle consiste à remettre de l'argent qu'ils avaient amené dans leur sac. Et on se souvient là encore que lorsque Joseph a été vendu, il a été vendu pour de l'argent. C'est donc leur sincérité, leur honnêteté par rapport à l'argent qui sera éprouvée là. Une fois retournés chez leur père en Canaan, une fois la nourriture qu'ils ont ramenée à Canaan, ils doivent entamer un deuxième voyage, cette fois-ci avec Benjamin. Et en arrivant en Égypte, ils sont soumis à une troisième épreuve qui aura lieu à l'occasion d'un repas. Des années plus tôt, par jalousie, à cause du favoritisme de leur père vis-à-vis de Joseph, ils l'ont jeté au fond d'une citerne et ils se sont ensuite installés pour prendre un repas. Ici, on les retrouve autour d'un repas, autour d'une table. Et Benjamin reçoit à table 5 fois plus de nourriture que les autres. La quatrième épreuve aura lieu là encore sur le chemin du retour. Elle consiste à remettre la coupe de Joseph dans le sac de Benjamin. Et cette épreuve est la plus dure. Qu'est-ce que les frères de Joseph, de Benjamin, vont faire maintenant que Benjamin est injustement accusé et menacé de mort? Qu'est-ce qu'ils vont faire maintenant? Et la reconstitution du crime va jusque dans le détail. Benjamin est menacé de mort au départ, mais ensuite menacé d'esclavage. Vous voyez le lien avec Joseph des années plus tôt? Qu'est-ce que Joseph est en train de faire? À quoi sert cette reconstitution? Comment la comprendre, cette reconstitution de crime? Voici 2 options qu'on pourrait avoir en lisant ce texte au départ. Est-ce qu'il s'agit ici d'un modèle de réconciliation? Est-ce qu'en fait, on est placé devant un modèle de réconciliation? Si quelqu'un nous a fait un tort, est-ce qu'on devrait s'inspirer de Joseph pour éprouver en quelque sorte la sincérité des personnes qui viendraient nous demander pardon? Est-ce que c'est ça? Ou alors, à l'inverse, est-ce qu'il ne faut pas imiter Joseph en disant ici qu'on a affaire à quelqu'un qui est trop dur, qui se venge, qui fait preuve de cruauté vis-à-vis de ses frères? Après tout, il parle durement, il les accuse d'espionnage faussement, il fait pression sur eux, il les menace. Et certains commentateurs considèrent que Joseph est intègre dans ce qu'il fait, et d'autres considèrent qu'il ne l'est pas. Et si ce n'était pas un modèle pour nos réconciliations, si ce n'était pas non plus un exemple de vengeance personnelle, si c'était un stratagème assez unique de Joseph pour amener ses frères à une prise de conscience, est-ce que Joseph est trop dur pour connaître qu'à certains moments, il est ambigu dans sa manière d'agir? Il y a 3 éléments qui devraient retenir notre attention. Le premier élément, c'est que si Joseph soumet ses frères à des chocs émotionnels, lui-même subit ces chocs émotionnels. Régulièrement, on lit que Joseph ne peut pas retenir ses larmes, il doit sortir, il pleure. À 4 reprises dans le récit, on l'entend pleurer, sangloter, on entend ses larmes. Deuxième élément qui doit nous interpeller, c'est que lorsqu'il dévoile son identité, finalement, qu'est-ce qu'il leur dit ? Chapitre 45, verset 5, « Ne vous tourmentez pas et ne soyez pas fâchés contre vous-même de m'avoir vendu pour que je sois conduit ici. » C'est surprenant si l'intention, c'est la vengeance. Mais le troisième élément, c'est la manière dont l'auteur décrit l'entrée dans la reconstitution de crime. L'auteur fait 2 commentaires avant d'expliquer comment Joseph met sous pression ses frères. Le premier commentaire se trouve au chapitre 42, versets 7 et 8. Il commente que si Joseph reconnut ses frères, eux ne le reconnurent pas. Si Joseph reconnut ses frères, eux ne le reconnurent pas. Dans la foulée, un deuxième commentaire, Joseph se souvint des rêves qu'il avait eus à leur sujet. D'une part, Joseph les reconnaît alors qu'ils ne le reconnaissent pas. Ensuite, il se souvient, au moment où il se prosterne devant lui, des rêves qu'il avait faits dans sa jeunesse. Et qui montre que Dieu accomplit bien ce qu'il avait annoncé des années plus tôt. De quoi est-ce que l'accomplissement des rêves de Joseph témoigne? Eh bien, il témoigne de l'omniscience et de la souveraineté de Dieu, n'est-ce pas? Il témoigne du fait que Dieu savait à l'avance ce qui allait se passer et qu'il a souverainement accompli ses projets. De quoi est-ce que Joseph, quel est ce stratagème dans lequel il va faire passer ses frères? Eh bien, Joseph est en quelque sorte le reflet de cette omniscience et de cette souveraineté de Dieu. C'est ce qui le pousse à faire une sorte de reconstitution de crime. On se souvient d'ailleurs qu'il avait déjà fait un stratagème lorsqu'il avait eu les rêves de Pharaon. C'est là qu'il entame une stratégie. Ici, c'est pareil, avec l'accomplissement de ses rêves, il entame une autre stratégie. Alors c'est vrai, il n'est pas Dieu, il est un reflet et un pâle reflet de Dieu. On pourrait relever dans le texte toutes les limites qui montrent qu'il n'est pas aussi omniscient, aussi souverain que Dieu. Mais notez que quant à savoir quelque chose à l'avance, on note qu'il reconnaît ses frères alors que ne le reconnaissent pas. Il sait qu'il y a encore 5 années de famine alors que ne le savent pas. Il est donc dans la position de celui qui sait à l'avance. Il est en même temps dans la position d'un souverain, de celui qui contrôle la situation. Il est premier ministre d'Égypte, c'est lui qui gère la crise. Et en même temps, les frères sont obligés de se tourner vers lui. C'est incontournable, ils vont devoir retourner vers lui. Il est le reflet de la souveraineté de Dieu. Comme dit, il n'est pas Dieu, et on pourrait relever dans le récit toutes les limites qu'il a. Il n'est pas omniscient totalement, il n'est pas souverain totalement, mais il est comme le reflet de cette omniscience et de cette souveraineté. Qu'est-ce qu'on va retenir de ce récit ? En tant que lecteur, on est comme invité à voir la reconstitution d'un crime qui doit permettre aux frères de Joseph de reconnaître ce qu'ils ont fait des années plus tôt. Possibilité d'une repentance, d'un changement d'attitude et en même temps de survie. Et en lisant le récit, on est frappé par toutes les réactions qu'on trouve chez les uns et les autres. Les craintes, les tristesses, les prières, les angoisses, la culpabilité, les décisions, les prises de risques, le sacrifice. On les voit lutter avec les deux épreuves de la famine, de cette épreuve à laquelle ils sont soumis. Tout en sachant, nous les lecteurs, que Dieu est omniscient et souverain. En tant que lecteur, on a une vue privilégiée. Et si on comprend ce récit, et dans une certaine mesure, si on l'applique un peu à nos vies, est-ce que ça ne devrait pas changer notre manière de vivre nos craintes, nos angoisses, nos incertitudes par rapport à l'avenir, notre culpabilité, notre difficulté à reconnaître un tort? Est-ce que ça ne devrait pas changer notre manière de voir ces circonstances-là? Les épreuves de Joseph, elles font aussi penser aux épreuves auxquelles Jésus a soumis ses disciples. Pensez à juste quelques séquences de l'évangile de Jean où Jésus met à l'épreuve ses disciples. En Jean 6, au début du chapitre, sachant qu'il y a toute une foule là qui a faim, qui a besoin d'être nourrie, Jésus s'adresse à Philippe et il dit « Où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger ?» Et Jean commente, et il disait cela pour le mettre à l'épreuve, car lui-même savait ce qu'il allait faire. Il sait ce qu'il va faire, il est souverain pour le faire, mais il met à l'épreuve les disciples. Et c'est pareil pour la suite, la fin du récit nous montre que de nombreuses personnes arrêtent de suivre Jésus à cause de ses paroles qui sont trop dures à entendre. Et Jésus se tourne vers les 12 et leur dit « Et vous, vous ne voulez pas aussi vous en aller ?» Simon-Pierre lui répond « Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle et nous, nous croyons et nous savons que tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. » Si ce soir nous sommes disciples de Jésus, on devrait s'attendre à des épreuves. On devrait s'attendre à des épreuves. Mais dans la perspective de Dieu, les épreuves ne sont pas le moyen de nous faire chuter, le moyen de nous faire du mal, mais au contraire, d'épurer, de restaurer, d'affermir, de permettre un plus grand attachement. Dans nos histoires, il est possible qu'on se situe à des moments d'incertitude, d'angoisse, de crainte, de culpabilité, de tristesse. Mais l'issue vers laquelle Dieu veut nous mener est au contraire la joie, la paix et l'espérance. D'où viendra cette joie, cette paix, cette espérance ? Ben ça nous fait venir, ça nous entraîne à la deuxième partie, épargner de la mort. Épargner de la mort. En différents siècles, les famines ont été cause de déplacements de population. En Irlande, d'où viennent mes ancêtres, On estime que la famine du 19e siècle a coûté la vie à 1 million de personnes. 1 million de personnes sont décédées à l'occasion de cette famine. Et en 10 ans, 2 millions de personnes ont émigré vers d'autres pays pour survivre à cette famine. Dans les chapitres 39 à 41, on s'était focalisé sur Joseph, mais on revient ici au chapitre 42 sur Jacob en Canaan. Et c'est la famine. Vous l'avez entendu au début. J'ai appris, nous dit Jacob, verset 2, qu'il y avait du blé en Égypte. Descendez-y pour en acheter, afin que nous restions en vie et ne mourions pas. Si rien n'est fait, c'est la mort qui les attend. En obtenant de la nourriture lors du premier voyage, ils ont un sursis, mais un autre problème est posé. Joseph leur a formellement interdit de revenir, à moins qu'ils aient Benjamin à leur côté. Écoutez la réaction de Jacob et les termes qu'il utilise dans sa demande, dans la réponse à cette demande. « Mon fils ne descendra pas avec vous, car son frère est mort et il ne reste que lui. S'il lui arrivait un malheur pendant le voyage que vous allez faire, vous feriez descendre avec douleur mes cheveux blancs dans le séjour des morts. » Vous entendez la mort qui rôde et qui semble rôder à tous les coins de rue. Il y a la mort qui menace à cause de la famine. Et ici, alors qu'il évoque ce qu'il devrait faire en laissant partir Benjamin, il évoque la mort de Joseph, la mort de Benjamin, qui provoquerait sa propre mort. La mort semble omniprésente. Est-ce que Jacob va mourir de faim ou de chagrin? C'est la famine et la mort qui planent dans toute la première partie. Et pourtant, le récit se termine avec l'abondance et la vie. L'abondance et la vie. Au chapitre 45, versets 9 à 11, Joseph transmet une invitation à son père. Une fois qu'il a dévoilé son identité, il promet une nourriture abondante pour toute la famille, même pour le bétail, pendant les 5 années de famine restantes. Pareil avec la vie, Joseph affirme, « C'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé ici devant vous. » Chapitre 45, verset 5. Et il le répète à plusieurs reprises, cette affirmation. Joseph est présenté comme le pionnier, le sauveur, l'agent que Dieu a envoyé en avance pour sauver la vie. Si on prend un peu de recul ici, il y a un paradoxe intéressant, n'est-ce pas? Les frères de Joseph ont voulu tuer Joseph, le faire mourir, et c'est lui qui va leur sauver la vie. Ils l'ont finalement vendu comme un esclave, mais ils doivent le reconnaître aujourd'hui comme un seigneur. Le même paradoxe se retrouve des siècles plus tard avec Jésus. Jésus est celui que les humains veulent tuer, mais il meurt pour sauver leur vie. Dans la position d'un esclave, il est vendu pour être cloué à la croix. Mais il est désormais le Seigneur devant qui tout genou fléchira. Et ça devrait nous faire réfléchir. L'hostilité vis-à-vis de Joseph, elle a pris un tournant lorsque Joseph a expliqué ses rêves, que ses frères allaient se prosterner devant lui. La pensée de se prosterner devant lui, elle leur était insupportable. Ils veulent le faire mourir. Mais c'est lui qui va leur sauver la vie. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui face à Jésus? Et là, je m'adresse peut-être en particulier à ceux qui ne sont peut-être pas en paix encore avec Dieu. Il y a peut-être certaines affirmations au sujet de Dieu, au sujet de Jésus, auxquelles on est allergique, sa divinité, son autorité sur tous les domaines de notre vie. Si on n'aime pas l'idée de se prosterner devant lui, de reconnaître son autorité, si on ne supporte pas cette idée qu'il est plus important que nous, qu'on devrait se prosterner devant lui, est-ce que ce qu'on a fait à Jésus et le fait qu'il est mort pour nous sauver la vie devrait changer la donne? Est-ce qu'on va repousser l'autorité de celui qui a été prêt à mourir pour ceux qui voulaient le faire mourir? On arrive maintenant à enfin réconcilier. Dans quelques instants, je vais divulgâcher un film. Divulgâcher. Le mot vient d'entrer dans le dictionnaire Larousse, donc je peux l'utiliser. Divulguer un film, là en l'occurrence, et donc le gâcher. Mais si ça peut vous rassurer, c'est un film qui date de 1986. Donc la majorité d'entre vous, vous n'étiez même pas nés. Donc si je le gâche, ça, c'est pas trop grave à mon avis. Pas aussi grave que si c'était le dernier film sorti. En fait, il s'agit de deux films, Jean de Florette et Manon des Sources, basés sur l'œuvre de Pagnol. Ils nous font entrer dans l'ambiance d'un village de Provence en 1920. On découvre le complot des Soubérans, son oncle et un oncle et son neveu plutôt. Ces deux protagonistes convoitent la source qui se trouve dans un champ à côté de leur propriété. Et Jean de Florette, incarné par Depardieu, est le propriétaire du champ. Et c'est lui qui va faire les frais de leur complot. Il est poussé au désespoir et à la mort. Et c'est là que je vais divulgâcher. Parce que des années plus tard, à la fin, on entend l'échange de l'oncle souverain avec une dame âgée sur un banc. Et ce jour-là, il découvre avec stupeur qu'il n'est autre que le père de Jean de Florette qui l'a poussé à la mort. Trop tard. Cette nuit-là, il est rongé par le remords et il meurt. Pour mettre l'ambiance, c'est ce qu'il fallait. Hein. On a déjà parlé de la mort qui planait dans la première partie, ou la deuxième partie plutôt. Mais cette famille de Jacob, elle est face à un autre fléau. Mourir sans réconciliation. Mourir sans réconciliation. C'est ça l'autre fléau. Et dans sa souveraineté, Dieu va utiliser la famine pour amener les frères de Joseph en Égypte et permettre une réconciliation. En parlant de Joseph, ces dernières fois, on a peut-être oublié un peu l'ambiance de famille. Vous avez peut-être oublié ceux qui étaient là pour les autres sur l'ambiance lourde dans la famille. Eh bien, retournez au chapitre 42, verset 1, et tout de suite, le ton est donné au premier verset. Voyant qu'il y avait du blé en Égypte, Jacob dit à ses frères, « Pourquoi vous regardez-vous les uns les autres ?» Vous l'entendez aboyer à ses fils. Et ses fils, on ne sait pas trop pourquoi ils se regardent en chien de faïence. Est-ce qu'ils sont dans le jugement mutuel ou est-ce que, en fait, ils sont dans le poids sous le poids de la culpabilité? En tout cas, ils sont plombés dans l'inaction. Et dans cette famille-là, avec le terrible secret qu'ils essaient de conserver, Dieu va opérer une réconciliation. La reconstitution de Joseph va permettre à ses frères de confesser leur culpabilité, de changer d'attitude. Et dès la première épreuve, la simple mention de Benjamin délie les langues. Écoutez-les au chapitre 42, verset 21. Ils se souviennent de Joseph et ils disent « Oui, nous avons été coupables envers notre frère. Nous avons bien vu sa détresse quand il nous demandait grâce et nous ne l'avons pas écouté. C'est pour cela que cette détresse nous frappe. » À la deuxième épreuve, ils ont conscience d'être redevables vis-à-vis de Dieu. Dans le récit, c'est intéressant de constater que c'est la première fois qu'ils mentionnent Dieu. À la troisième, ils ne réagissent pas par jalousie vis-à-vis de Benjamin. À la quatrième épreuve, quand Benjamin est accusé, Judas se fait le porte-parole. Que pouvons-nous te dire, Seigneur ? Comment parler ? Comment nous défendre ? Dieu a découvert la faute de tes serviteurs. Nous voici tes esclaves, Seigneur, nous et celui sur qui on a trouvé la coupe. Le souvenir de leur faute est tellement pesant qu'ils sont prêts ici à assumer une faute qui est moins grande et dont ils ne sont même pas réellement les auteurs parce qu'il y a quelque chose de beaucoup plus lourd qu'ils ont à confesser dans le passé. Et pour que cette réconciliation soit possible, il a fallu une reconnaissance de leur culpabilité, une repentance. Mais quelque chose d'autre ressort de cette réconciliation. La faute et les enjeux dans ce qui s'est passé 20 ans plus tôt est tellement important qu'il a fallu un médiateur. Qui est le médiateur ? Sur qui est-ce que ça va retomber ? Cette Cette expression, on la trouve dans la bouche de Jacob lorsqu'il parle de Benjamin. « C'est sur moi que tout cela retombe !» Chapitre 42, verset 36. Et dans un premier temps, il n'est pas prêt à encaisser les conséquences. Sur qui est-ce que cela va retomber alors ? L'aîné, Ruben, prend la parole. « Si je ne te ramène pas, Benjamin, tu pourras faire mourir mes deux fils. Confie-le-moi et je te les ramènerai. » Sympa pour les fils, hein ? Jacob, s'il ne voit pas Benjamin revenir, il devrait se consoler en faisant mourir les deux fils de Ruben. C'est stupide. Sur qui est-ce que cela va retomber ? Sur Judas. Judas lui-même se porte garant pour Benjamin. Et notre récit est marqué par deux discours de Judas, l'un pour son père, l'un pour Joseph. Et dans les deux cas, Judas est sincère, clair, ferme, convaincant. Dans les deux cas, il est prêt à ce que tout retombe sur lui. Et dans les deux cas, il sera écouté. Et si nous avions besoin de réconciliation ? Si nous avions besoin de réconciliation ? Ce que les frères ici ont vécu a peut-être évoqué pour l'un ou l'autre d'entre nous une relation qui a besoin de réconciliation, justement. Le texte, il est évocateur, n'est-ce pas ? Et parfois, ce sont les circonstances qui sont évocatrices, comme les circonstances des frères ont été évocatrices pour eux, d'une faute commise dans le passé. Comme les frères de Joseph, on a peut-être pensé qu'on pouvait tout couvrir avec le tapis ou un cache-misère, que tout cela resterait secret. C'est peut-être dur à croire dans un premier temps, mais l'épreuve que les frères subissent de la part de Joseph est une opportunité, un bienfait. La reconnaissance de leur faute est non seulement une occasion pour eux de soulager cette culpabilité qu'ils ont bel et bien, et en même temps d'expérimenter une réconciliation inespérée avec leurs frères, avec Dieu. Et qui, au fond, ici, n'a pas envie, dans une ou l'autre relation, d'expérimenter ce genre de réconciliation ? De pouvoir vivre une telle réconciliation. On reconnaît tous la difficulté de confesser une faute à quelqu'un, de demander pardon à quelqu'un. Alors qu'est-ce qui va nous donner la force de le faire ? N'est-ce pas le fait de savoir que la faute a déjà été payée ? N'est-ce pas de savoir que les conséquences les plus graves de ce que nous avons commis de nos fautes sont retombées sur un autre. Jésus est le médiateur par excellence, le descendant de Judas, de la lignée de Judas. D'un point de vue très concret, il est possible que si nous retournons vers une personne en confessant des fautes du passé, une autre offense que nous avons commise vis-à-vis d'elle, la personne ne réagisse pas de la meilleure des façons. Il est possible qu'elle ne reconnaisse pas ses torts ou qu'elle nous méprise. Il est même possible que cette réconciliation n'aille pas jusqu'au bout. Mais nous pouvons faire notre part et nous savoir en paix avec Dieu parce qu'un médiateur a pris sur lui les conséquences éternelles de nos fautes. Jésus l'a fait à la croix. Je vous invite à la prière. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te remercier pour l'œuvre que tu as accomplie dans la vie de cette famille et l'œuvre que tu veux accomplir en nous. Nous te remercions d'avoir révélé un tel Seigneur en Jésus-Christ qui est mort pour nous et pour nous sauver la vie. Merci d'avoir révélé en lui un tel médiateur qui a accepté que tout retombe sur lui pour permettre cette paix avec toi et avec les autres. Au nom de Jésus. Amen.